vous prenez les deux feuilles de la des particularités de l'office du samedi.
Je vais prendre le siège de l'évêque. Pas le livre de récemment qui est sorti sur la nativité, mais voilà, je vais déjà le commander celui-là. Il est complet, c'est ça, hein, au niveau des textes liturgiques. Oui, ouais, je vais commander. Ils en ont sorti des pour d'autres fêtes ou il y a que c'était le premier de.
C'est le premier, je crois, d'une série. Ouais, voilà. Il y a la Théophanie qui est déjà sortie.
Ah, déjà sorti. Le prix raisonnable.
Oui.
13 euros, je crois. Frais de, d'envoi compris, 13 euros.
15 euros.
Ouais, raisonnable, ouais. Ouais.
Bon, je...
Patrick, les renseignements là, on va savoir qui a qui. Ah, ça y est, c'est bon.
A quitté le sac.
Non, c'est bon, on l'a trouvé. Tu peux repartir dans l'ombre. C'est ça.
Bon. Donc ce soir et demain matin, C'est quoi ça?
Ça vient. C'est parti de ça.
Donc nous allons célébrer les derniers offices du ton 5. Donc le samedi, est appelé. Il y a une question ? Oui, de vendredi soir et de samedi matin. Hein. Donc tu sais que vendredi soir, déjà, on commence l'office de samedi. Ça, tu le sais, vous le savez maintenant tous.
Oui, non, hein. Oui.
Là, je te vois pas, là. Vous êtes mal assis, là. Avancez un peu là, avancez un peu là. Pourquoi vous faites comme ça? Déplacez-vous par là. Encore. Asseyez-vous. Tiens, décalez le banc un peu par là. Donc, le samedi, le samedi est un jour spécial dans la semaine, je vous l'ai déjà dit, c'est l'office qui s'appelle la clôture du ton. Donc c'est le dernier jour du ton de la semaine. On fête tous les saints ou les défunts. Donc, si c'est tous les saints, on chante « Le Seigneur est Dieu ». Si c'est les défunts, on chante « Alléluia » à la place de « Le Seigneur est Dieu » au début des matines. Et donc, arrêtez de parler.
Excuse-moi, Vladimir, moi aussi, j'ai pas... Au début des matines, on chante...
Quand c'est tous les saints, on chante le Seigneur est Dieu.
D'accord.
Et quand on fait un office pour les défunts, on chante Alléluia.
D'accord.
À la place de le Seigneur est Dieu. Donc le samedi, comme je vous ai dit, n'est jamais un jour de jeûne, dans le sens où on fait une liturgie systématiquement le matin. Vous vous souvenez qu'en carême, on ne fait pas de liturgie le matin en semaine, pour ne pas rompre le jeûne. Le samedi, même en temps de carême, on fait une liturgie de Saint Jean Chrysostome le matin. Donc il est dit dans le droit canon, il est dit que le samedi n'est pas un jour jeûné, c'est un jour de fête systématiquement, parce que donc c'est l'ancien jour du sabbat et que on a gardé cette festivité. Donc il y a quelques particularités pour cet office donc, qui sont listées sur les deux feuilles que je vous ai données. D'accord ? Donc si le samedi on fête
un saint à trois stichères, il est automatiquement transformé à six stichères, c'est-à-dire qu'au lucernaire, on ne chante rien de l'octoèque. On chante systématiquement les stichères du saint. Ça va, Katia, ça va ? Ben, on peut fermer la fenêtre. Bon, c'est la dernière fois. Après, je te renvoie du cours.
Si l'on ne chante rien de l'octoèque samedi, il n'y a aussi rien de marqué dans l'octoèque.
Si, si, on ne chante rien, même si l'office est complet, mais on ne chante rien au stichère du lucernaire. Ah. D'accord ? On va l'utiliser, on va les utiliser après. Donc on chante un gloire s'il y en a, et quel que soit le ton du gloire, à et maintenant, on chante le dogmatique dans le ton de l'octoèque de la semaine, c'est-à-dire ce soir, par exemple, on va chanter le dogmatique du ton 5. Donc demain, nous fêtons mémoire de Saint Hiéromartyr Hermolaus et de ses compagnons et de la sainte Osiomartyre Parasève. Donc il y a six stichères au méné, donc on n'a pas besoin de les doubler. On a un gloire du ton 6. Eh bien, ce soir et maintenant sera le théotokion dogmatique du ton 5. Donc ça, c'est vraiment une particularité de l'office du samedi. Parce que les autres jours, systématiquement, et maintenant, le théotokion est dans le ton du gloire, sauf le vendredi soir et le samedi matin.
Théotokion, tu vois,
du 5 au 7, j'ai mal entendu. 5. 5. On est la semaine 5. On est la semaine du ton 5 et pas du ton 7.
Oui. Gloire, ton 6 et ton 5.
Ton 5, hein, parce que c'est la clôture du ton 5. Oui. Réfléchissez un peu quand même. Ensuite, on aura des apostiches du ton 4 avec les versets. On aura un gloire du ton 6. Aux apostiches, eh bien, on garde le théotokion du ton 6, hein, de semaine. Par contre, pour le tropaire, non, du ton 6, hein, on garde le ton 6. Après les apostiches, il n'y a pas de changement. Pas aux apostiches. Attention. Hein. Ensuite, on a un tropaire du ton 4 de Hermolaïs, des martyrs. On a un deuxième tropaire du ton 1 pour Sainte Parasève. Eh bien, cette fois-ci, après les tropères, on a donc de nouveau le tropère des dimanches, le théotokion des tropères du dimanche du ton 5. Donc, dans votre esprit, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la famille des théotokia, donc il y a deux familles. Il y a la famille des Théotokia de semaine et les Théotokia du dimanche. Hein. Ok. Dans le dimanche, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a le Theotokion dogmatique. Il y a le Theotokion des apostiches. Et le Theotokion des tropères. D'accord ? Donc ça, on va les utiliser assez souvent. Et dans les Theotokias de semaine, vous avez d'un côté les Theotokias des stichères, de l'autre côté les Theotokias des tropères. Et pour chaque jour, on change de tropère pour chaque ton. Chaque ton, chaque jour, on a des Theotokias différents. Pour une fois, on n'a pas le tableau. Alors, si le saint n'a pas de stichère aux apostiches, aux vêpres. Ah bon ? À ce moment-là, on prend les apostiches dédiées aux saints martyrs qui sont marquées au lucernaire. Bon, vous sortez, Marina, tu sors, s'il te plaît. Non, tu sors ? Ah non, mais c'est pas possible. Et tu reviens pas, hein ? Allez, tu sors ! Allez ! Allez, tu sors ! Mais je te demande de sortir. Je te demande de sortir. Non, mais attends. Tu sors. Benoît, viens ici, viens t'asseoir là. À la place de... Tu peux sortir, tu peux changer avec Benoît.
Et on va tout dire à Pétia. On va tout dire à Pétia. Non, mais ça bien comme ça.
Tu n'as pas besoin de tout noter, tout est marqué ici. Donc après, vous n'avez qu'à lire ce qui est marqué. Les canons, il y a trois canons. Le premier, c'est celui d'Éménée. Donc on fuit toujours la première place au saint, d'accord ? Deuxième, à la dédicace de l'Église. Et le troisième, de l'Octoèc, premier canon à tous les saints. Donc, si vous avez un office, des offices à célébrer donc le samedi, vêpres, eh bien, vous regardez ce papier. Bon, par contre, nous, demain, comment on va faire ? Donc, nous, on a... On a deux canons au sein. On a un office avec à grande doxologie demain matin aussi. On a deux canons déménés. Ariane, je t'ai pas mis à côté pour que tu discutes avec elle. Si elle te parle, tu lui dis... Donc on fera les deux déménés. Et le troisième de l'octoèque. Voilà, donc c'est ce qu'on va faire. Donc demain, on va dire les deux canons déménés et le troisième de l'octoèque, le premier canon à tous les saints. Et pour les apostiches, on les prendra dans les ménés. Voilà, donc ça, c'était les particularités du samedi. Donc, le samedi, considéré comme clôture du ton, on rechante systématiquement le dogmatique du ton et le théotokion du dimanche des tropères. Donc, maintenant, on va parler un petit peu des 12 grandes fêtes.
Vladimir, simplement une chose que je voulais dire, pour les gens qui s'inquiéteraient de ne pas avoir Suisseman de Nord, je leur rappelle qu'ils entendront tout ce que Vladimir dit dans l'enregistrement, donc ne pas s'inquiéter. Si vous loupez quelque chose, Vladimir, il y a la voix qui va bien pour tout sera dans la machine. Donc vous aurez la restitution, vous inquiétez pas.
Alors, dans l'année, comme je vous avais dit, à part les trois cycles dont on a parlé, dans les trois cycles journaliers. Donc, il y a trois cycles journaliers, donc hebdomadaires et annuels. Donc, dans le cycle annuel, il y a 12 grandes fêtes qui sont mises à part. D'accord ? Donc, il y a 7 fêtes qui sont dédiées au Seigneur. et 5 fêtes dédiées à la Mère de Dieu. Donc, Pâques n'est pas considérée comme une des 12 grandes fêtes. Elle est vraiment à part. Donc, dans les grandes fêtes du Seigneur, on a la Nativité qui est le 25 décembre. Donc ça, c'est pas la peine de le noter non plus parce que c'est marqué dans tous les calendriers. Donc la Théophanie, le 6 janvier. La Transfiguration, c'est le 6 août. Et puis l'Exaltation de la Croix, le 14 septembre. Et donc trois fêtes qui sont liées à Pâques, qui sont les Rameaux, 7 jours avant Pâques, l'Ascension, 40 jours après Pâques, et la Pentecôte, qui est 50 jours après Pâques. Donc ça, ce sont des fêtes qui sont particulièrement célébrées avec des offices très solennels. Et vous avez 5 fêtes de la Mère de Dieu qui sont la Nativité de la Mère de Dieu. Mais arrêtez de parler, mais c'est pas possible.
Il en manquait une.
Mais c'est pas grave, mais laisse-la. La Nativité de la Mère de Dieu, le 8 septembre. La Présentation au Temple, donc de la Mère de Dieu, qui est le 21 novembre. L'Annonciation, ne notez pas tout ça, hein, vous l'avez tous dans les calendriers. L'Annonciation qui est le 25 mars, la Sainte Rencontre qui est le 2 février, et la Dormition. Ça, ce sont les 5 fêtes dédiées à la Mère de Dieu. Alors, quelles sont les particularités? Eh bien, d'une part, comme on a dit ce matin dans notre groupe, on ne chante pas le Magnificat ces jours-là. Enfin, c'est-à-dire qu'à la place du Magnificat, on a des versets. Vous les avez peut-être répétés, je ne sais pas, dans votre groupe. Non. Katia est là, non?
Non, c'est bon,
on ne pas. Donc ça vaut le coup. C'était prévu quand même que justement on répète ces versets qui se chantent toujours pratiquement sur la même mélodie et qui se chantent à la place du Magnificat. Et ce verset-là se chante entre les tropaires de la 9e ode. Donc ça, c'est typiquement des 12 grandes fêtes.
C'est les mêmes qui sont repris à la liturgie le lendemain, non ?
Alors, oui, c'est le, sauf qu'on n'en prend qu'un seul, hein. Il est obligatoirement, c'est le premier verset avec l'Irmos de la 9e ode. Hein? Donc ça, c'est à la liturgie. À la liturgie, à la place de « Il est digne en vérité », on chante donc le verset de la fête avec l'Irmos de la 9e ode. Hein? Ça, c'est à la liturgie. Le jour de la fête, il n'y a seulement... On ne lit que le canon de la fête. Hein. Il peut y avoir un ou deux canons. Il n'y a pas d'autres canons. Alors, il y a ce qu'on appelle, pour ces jours-là, il y a ce qu'on appelle des jours d'avant-fête et des jours d'après-fête, qui sont particuliers. Hein? Ces jours d'avant et d'après-fête, on ne célèbre pas du tout d'office de l'octoèque. Tout est déméné.
Quand c'est avant et après, ça veut dire le samedi d'avant et le samedi.
Non, 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 les jours d'avant, les jours d'avant. Les jours d'avant. Hein.
L'octave.
La semaine.
L'octave avant et l'octave après.
Non, 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 non. Pour chaque fête, c'est différent. Hein. Ça, c'est, ça se voit dans les ménés. Hein. Alors, l'avant-fête, par exemple. Donc, l'avant-fête prépare les fidèles à la fête. Donc, les 12 grandes fêtes, sauf la nativité du Christ et la théophanie, ont chacune un jour d'avant-fête. Par contre, pour la préfète, donc, continue la fête. Sa durée, comprenant le dernier jour de clôture, varie suivant les différentes, suivant les différentes fêtes. Donc, une seule journée pour l'Annonciation, 4 jours pour la Nativité de la Mère de Dieu et de la Présentation au Temple, 6 jours pour la Nativité du Christ et la Pentecôte, 7 jours pour la Sainte Rencontre, la Transfiguration et l'Exaltation de la Croix. 8 jours pour l'Ascension, la Théophanie et la Dormition. Oui, donc tout ça, c'est, ça dépend de la fête. Et tout ça, c'est marqué dans, le, dans les ménés. Donc le dernier jour de la préfète s'appelle la clôture de la fête. Et la clôture diffère des jours précédents de la préfète en ce sens que ce jour-là, tout l'office est célébré selon l'ordre de la fête elle-même. Bon. Mais bon, tout est marqué donc dans le voilà donc la liturgie effectivement donc on remplace. Il est digne en vérité par le verset le méga ce qu'on appelle le verset mégalinaire de la neuvième ode le premier avec l'irmos. Alors bon, après pour Noël, c'est un peu différent parce que on a l'avant-fête commence le 20 décembre. Et là, il y a, c'est particulier parce que les dimanches avant Noël sont les 2 dimanches sont réservés à l'avant-fête, c'est-à-dire que on fête les ancêtres du Seigneur. Et donc, le dernier dimanche avant Noël, s'il tombe pendant l'avant-fête ou pas, on a 2... Donc, c'est un peu compliqué. Bon, on ne va pas le faire ici. C'est un peu compliqué. Donc, ça, il faut regarder dans les ménés. Tout doit être expliqué. Ce que je voulais dire, c'est quand même pour Noël, la particularité... Des deux liturgies de Noël et de la Théophanie. Donc vous savez que pour le samedi saint, c'est le seul samedi qui est jeûné dans l'année parce que la liturgie est célébrée après les vêpres. D'accord ? Donc la liturgie est reportée au soir. C'est-à-dire dans l'après-midi, en fait. Et la liturgie n'est pas célébrée le matin, mais après les vêpres. Et pendant les vêpres, on lit un certain nombre de lectures. Vous savez, les 15 fameuses lectures du samedi saint, donc qui sont chantées pendant les vêpres, qui sont lues pendant les vêpres. Donc ça, cela venait, vous le savez peut-être, du fait que pendant le carême, au début, c'était quoi ? C'était une préparation des catéchumènes pour le baptême. Et le baptême se faisait justement le samedi saint. Et pendant les vêpres. Et donc, l'évêque, ben pendant les vêpres, il sortait, il allait baptiser, et pendant qu'il baptisait, on faisait des lectures. Et donc, ça a été gardé. Les lectures sont restées. Les baptêmes ont disparu. Parce que maintenant, on baptise les enfants. Donc, toute cette période de catéchuménat, maintenant, n'existe pratiquement plus. Dans l'Église orthodoxe, en tous les cas. Dans l'Église catholique, ils ont gardé, en France, parce qu'il y a quand même des adultes quand même qui se font maintenant baptiser, et donc ils gardent ça pendant le carême, et vous avez, dans les églises catholiques, beaucoup de baptêmes qui ont lieu le samedi saint. Donc ça, c'est la même tradition. Alors, le samedi saint, eh bien, on attend de faire... Alors, pourquoi ? Parce que le samedi saint, donc, c'est le septième jour de la création. Vous savez que dans la Genèse, donc, on parle des six jours de la création. Et on dit que le septième jour, Dieu se reposa de ses œuvres. Eh bien, voilà, et donc, c'est pour ça que Dieu avait demandé au peuple d'Israël de ne pas travailler aussi, donc, en préparation toujours de ce jour où Dieu va se reposer de sa création. Or, quand se termine la création de l'homme, elle se termine quand Jésus meurt sur la croix. Donc, quand Jésus meurt sur la croix, il dit « Tout est achevé » et cela signifie que là, il termine la création de l'homme. C'est pour ça qu'il meurt le vendredi, parce que c'est le sixième jour de la création, le sixième jour de la semaine. Et il est mis au tombeau, il est mis au sépulcre le vendredi soir. Et le samedi qui suit, c'est le samedi où Dieu se repose de sa création. Donc tout ça, c'est manifeste dans tous les stichères que nous chantons à l'église, le vendredi saint et le samedi saint. Et donc, ce jour où Dieu se repose, eh bien, nous jeûnons. Nous jeûnons, nous attendons donc le soir, quand le soleil se couche, pour célébrer une première liturgie de Pâques, qui est la liturgie, si vous voulez, du soleil couchant. Donc celui qui annonce les ténèbres. Et c'est une liturgie de Saint Basile. Elle est très spéciale. Donc au milieu de l'église, il y a l'épitaphion, hein, Jésus qui se... Et tout se passe en silence. D'ailleurs, à la grande entrée, on ne dit rien. Le prêtre fait le tour de l'épitaphion. Il ramène les dons qui sont en préparation. Il les pose sans... Et à la place du chérubicon, on chante « Que toute chair fasse silence ». Donc ce samedi est un samedi vraiment très très spécial. Et la liturgie se fait le soir, c'est une liturgie qui est en même temps de fête, mais en même temps, Dieu est toujours dans le tombeau. Et ensuite, donc, le dimanche matin, dès minuit, on commence les matines, le plus tôt possible pour fêter, et on commence à chanter « Le Christ est ressuscité des morts », et là, on allume tout. Ça veut dire que les ténèbres sont vaincues. Donc à minuit, après la procession, toutes les lumières doivent être allumées dans l'église. Les ténèbres sont vaincues. Donc on chante les matines. Tout est chanté avec le fameux canon de Pâques. Et tout de suite après les matines, dans la nuit, on célèbre la deuxième liturgie, qui est une liturgie de Saint Jean Chrysostome. Où là, vraiment, c'est la fête à 100%, quoi.
Oui, mais en fait, maintenant, on ne fait plus ça. On commence les matines à 10h du soir, et on célèbre la liturgie pascale à 8h du matin.
Oui, ben voilà, oui. Bon, ben ça, c'est parce que nous sommes faibles. Hein. Mais quand moi, j'étais gamin, donc à Asnières, on célébrait les matines à minuit. On attendait minuit pour célébrer les matines. Voilà. Maintenant, bon, ben, on fait
économie,
à 10 heures.
Par économie.
Par économie, pour terminer moins tard. Mais bon, la liturgie, quand même, elle doit être après minuit, quand même.
Oui, hein,
parce que, donc, il y a une liturgie par jour qui se passe entre minuit et minuit. Et donc, la liturgie qu'on célèbre le samedi soir, c'est quand même la liturgie du samedi.
Alors, ce qui arrive dans certaines paroisses, c'est qu'on anticipe la liturgie du samedi soir, on la fait le samedi matin.
Voilà. Voilà, maintenant, c'est très... Voilà. Il y en a beaucoup qui font ça. Enfin, c'est pratiquement tout le monde, hein, je veux dire, parce que cette liturgie, elle est quand même... Ah, elle est longue. Parce qu'il y a les vêpres avec les lectures... et donc, effectivement, donc on la commence aussi, on l'anticipe au matin à 10h, mais elle devrait se faire d'après l'ordo vers 2-3 heures de l'après-midi. Et d'ailleurs, les moines ne quittaient pas l'église entre cette liturgie et les matines. Ils restaient dans l'église, on leur apportait à manger un petit peu de pain et des figues, et un peu de vin. Et donc, ils attendaient à l'église donc le début des matines, avec la lecture de... qu'est-ce qu'on lit ? Les actes des apôtres. Hein ? Voilà, la lecture continue des actes des apôtres. Voilà. Eh bien, pour Noël, on va essayer de calquer ça à Noël. C'est-à-dire que dans la préfète, on aura des offices qui vont ressembler au lundi saint, mardi saint, etc. Avec même le chant d'un canon comme le samedi matin. Je crois que c'est le 24 au matin, au matin du 24. On chante le canon. Vous savez qu'il y a une mélodie spéciale du samedi saint. Les matines du samedi saint sont chantées le vendredi soir, et on a une mélodie spéciale pour ce canon du... Mais alors, si vous regardez les deux canons, les mots sont pratiquement les mêmes, et on chante sur la même mélodie. Donc on essaye de calquer la semaine avant Noël sur la semaine sainte. Et la veille de Noël, eh bien, on fait la même chose, c'est-à-dire que on va célébrer des vêpres et une liturgie de Saint Basile après les vêpres. Bien sûr, donc c'est toujours ramené au matin, mais donc on commence la veille de Noël, on commence l'office par des vêpres, et on a, au lieu d'avoir 15 lectures, on n'en a que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a 8 lectures. Et la première est toujours les premiers mots, donc les premiers versets de la Bible. C'est la lecture de la Genèse, chapitre 1, versets 1 à 13. Donc, que l'on lit aussi bien le samedi saint que donc, la veille de Noël. Donc, je vous lis le premier paragraphe. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or, la terre était invisible et vide. Les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme et l'Esprit de Dieu planait sur les eaux. Était porté sur les eaux. Très bizarre, une traduction très bizarre. Et Dieu dit... Que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et il sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour, il appela les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, jour 1. Pardon ? Et il y eut un soir, il y eut un matin, jour 1. Voilà, c'est tout ce qui a marqué. C'est pas jour premier, c'est jour 1. Donc, si vous avez un texte où il y a marqué premier jour, il faut dire jour 1 à la place de premier jour. C'est pas le premier, c'est 1. C'est l'unique. Donc jour 1. Donc ça c'est bien marqué dans le texte hébreu et dans les dans la Septante. On ne dit pas jour premier, il faut dire jour 1. Donc c'est le jour unique, c'est-à-dire que c'est le jour, comme je vous ai dit, Dieu voit tout dans la globalité. Pour lui il n'y a pas de temps, il y a une globalité. Et ce jour, en ce jour 1, tout est inclus dans ce jour 1. Alors pourquoi il sépara la nuit des ténèbres ? Parce que le mal existe dès la création donc, des anges. Parce que le premier des anges, à sa création, il a renié son créateur. Donc par orgueil, il s'est cru aussi fort que Dieu, et Dieu l'a chassé, et il a, en le chassant, Lucifer s'est fait, au contraire, porteur de ténèbres. Hein? Et donc, les ténèbres arrivent tout de suite avec la lumière. Donc, il a été obligé de séparer la lumière et les ténèbres, alors qu'il n'a pas créé les ténèbres. Dieu n'a pas créé les ténèbres. Les ténèbres, c'est Lucifer qui, par orgueil, c'est toujours la même histoire, il voulait se mettre à la place de Dieu. Et Donc il a renié Dieu. Au lieu de louer Dieu, il s'est mis à la, il voulait se mettre à la place de Dieu.
Lucifer, ça veut dire la lumière.
Non, c'est porteur de lumière. Porteur de lumière. Ben oui, il garde son nom premier, c'était Lucifer. C'est-à-dire, c'était lui qui reflétait la lumière. Et donc, dans certains textes liturgiques, on l'appelle aussi l'étoile du matin. Donc, quand on parle que Dieu, toi, tu es né avant l'étoile du matin, quand on dit Dieu est né avant tu es né avant l'étoile du matin, ça veut dire que tu es né hors du temps, avant les siècles, dès avant les siècles. D'accord. Donc c'est Lucifer, et Lucifer est tombé. C'est le premier qui est tombé, mais lui, il est tombé définitivement parce qu'il avait été créé parfait. Alors que lui, l'homme, lui n'a pas été créé parfait. Il a été créé, il devait évoluer encore.
Mais compte tenu de la miséricorde de Dieu, on ne sait pas à la fin des temps si Lucifer sera pas racheté.
Non, ça, oui, non, ça on ne sait pas. Ça, tu peux pas. Ça, tu ne peux pas savoir. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Hein. Ça, on n'en sait rien, ce n'est pas à nous de décider. Quoi.
Il y a des livres bibliques qui ne sont pas canoniques, comme le livre d'Enoch, qui est toujours respecté chez certains orthodoxes, mais pas chez nous, qui te parle beaucoup justement de la chute de Lucifer.
Ah oui.
J'ai pas lu. Il était un ange aussi.
Ben non, c'est le premier ange. Voilà. Et ce jour 1, finalement, toute l'histoire de l'humanité, toute l'histoire du salut de l'homme, ça va être que ces ténèbres vont disparaître. Et le quatrième jour, on parle aussi de la lumière. Le quatrième jour de la création. Quelqu'un a une Bible avec lui, non? Attends, il en a peut-être une.
Moi, j'en ai une dans la chambre. La dame, elle nous a proposé.
Non? La Genèse, oui, tu l'as pas?
Le quatrième jour, c'est pas
le quatrième jour.
On peut dire le quatrième jour.
Ah bah oui, après on dit le jour 1, après tu as deuxième jour, troisième jour, quatrième jour.
Oui, mais pas первый. Non.
Ah oui. Oh la vache. Tiens, tu peux lire à partir d'ici parce que là, moi, je vois pas. Dieu dit à partir de là et jusqu'à la fin du quatrième jour. Hein, Dieu dit Dieu.
Dieu dit qu'il y ait des luminaires au firmament du ciel pour séparer le jour et la nuit, qu'ils servent de signes tant pour les fêtes que pour les jours et les années. Qu'ils soient des luminaires au firmament du ciel pour éclairer la terre, et il en fut ainsi. Dieu fit les deux luminaires majeurs, le grand luminaire comme puissance du jour et le petit luminaire comme puissance de la nuit et les étoiles. Dieu les plaça au firmament du ciel pour éclairer la terre, pour commander au jour et à la nuit, pour séparer la lumière et les ténèbres, et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir et il y eut un matin, quatrième jour.
Mmh. Donc on parle des ténèbres, et là on parle des luminaires, du soleil et de la lune.
Et pourquoi on y va jour 4?
Non, parce que jour 1, il n'y en a qu'un. Il est unique. Donc après, les autres sont deuxième, troisième, quatrième. Donc ce quatrième jour, eh bien, il y a la création du soleil et de la lune qui sont les astres, qui sont les deux symboles du Christ, et qui, donc la lune, elle est là pour éclairer les ténèbres. Et donc la lune, ça devient le symbole de l'incarnation. Donc déjà, on voit que les ténèbres sont éclairées par la lune. C'est le début du salut. Et cette lune représente l'incarnation de Dieu. Donc c'est pour ça qu'on fête maintenant Noël le 25 décembre. Parce qu'à l'époque, le 25 décembre, c'était le solstice d'hiver. C'est-à-dire que c'est le moment où la nuit est la plus longue dans l'année. Et on fête Jésus, la naissance de Jésus. Donc Jésus, c'est comme, donc il vient bébé, mais il vient déjà éclairer les ténèbres. Et c'est le quatrième jour. Donc c'est un mercredi. Et donc dans certains écrits, il est dit que Jésus est né un mercredi. Mais tout ça, c'est symbolique. Et quand on lit le dernier chapitre de l'Apocalypse, c'est-à-dire la fin de la Bible, donc ça c'était le début de la Bible, et maintenant quand on lit le verset 5 du dernier chapitre de l'Apocalypse, c'est-à-dire la fin de la Bible, le verset 5.
De nuit, il n'y en aura plus. Voilà. De nuit, il n'y en aura plus. Ils se passeront de lampes ou de soleil pour s'éclairer, car le Seigneur Dieu répandra sur eux sa lumière et ils régneront pour les siècles des siècles.
Voilà. Donc, il n'y aura plus de ténèbres. Ça veut dire que là, les ténèbres sont complètement vaincues. Et symboliquement, toute l'histoire du salut, c'est effectivement donc la victoire de la lumière sur les ténèbres. Et on utilise tout ce symbolique beaucoup dans les offices. Hein. Donc, le coucher du soleil, le lever du soleil qui représente la victoire de la lumière sur les ténèbres. Noël, le 25 décembre, et Pâques. Donc Pâques, quand est-ce qu'on fête Pâques? Eh bien, le premier concile œcuménique a déterminé, donc a fixé la date de Pâques par des éléments astronomiques, justement. Hein, on attend l'équinoxe, on attend le printemps, voilà, c'est ça, l'équinoxe de printemps. Donc maintenant, l'équinoxe de printemps, c'est le 21 mars. Et donc là, qu'est-ce que c'est? C'est le moment où la Terre est placée de telle façon à ce que aussi bien le pôle nord que le pôle sud est éclairé. Donc l'hiver le pôle Nord n'est pas, parce qu'il est, il est incliné par rapport au Soleil. Et l'été, c'est le contraire. Donc c'est le pôle Sud qui n'a pas de lumière. Le pôle Nord est tout le temps, il n'y a plus, pas de nuit au pôle Nord. Et l'équinoxe, c'est quand ben l'ombre passe par les pôles. D'accord ? Donc, toute la face est illuminée. Donc, on attend d'abord donc, cet équinoxe. Ensuite, on attend la pleine lune. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la lune est de l'autre côté par rapport à la Terre. Et donc, la nuit, elle éclaire complètement la Terre de l'autre côté. Donc, la Terre est éclairée par les deux luminaires en plein. Donc, la Terre est en pleine lumière. Et après, on attend le dimanche. Donc, pourquoi le dimanche ? Pour que tous les chrétiens fêtent le même jour. Parce que certains fêtaient à la pleine lune et d'autres le dimanche. Donc ça, c'était plutôt à Rome, on fêtait le dimanche après la pleine lune. Et certains en Moyen-Orient, ils fêtaient dès la pleine lune, ils fêtaient la résurrection. Et donc, il y avait des discussions théologiques. Et finalement, le premier concile a dit, on fêtera, les chrétiens doivent fêter Pâques tous ensemble. Et ça sera le dimanche, le premier dimanche, après la pleine lune qui a lieu après l'équinoxe de printemps. Voilà la détermination de la date de Pâques. Et il n'y est fait aucune référence à la Pâque juive. Donc on est complètement indépendant de la Pâque juive. Parce que de toute façon, la Pâque juive n'a plus lieu d'être.
Comment ça se fait qu'avec cette définition qui paraît très claire, la date de Pâques soit
fausse. Ah, oui. Alors, ce qui s'est passé, c'est que il y a vers très tôt, hein, je crois que vers le 5e ou 6e siècle, il y a un moine qui a voulu donc simplifier la vie et donc il a fait un calendrier perpétuel. Déterminant donc la lune, la date de la lune par rapport au 21 mars. Donc on a un calendrier lunaire qui est perpétuel, mais qui ne correspond plus du tout à la réalité, parce que maintenant, avec toutes les avec les décalages, parce qu'il n'était pas, juste au départ. Donc lui, il prévoyait la date de la pleine lune en 2004, 2014, d'après ce calendrier, on a la date de la pleine lune après le 21 mars. Mais c'est faux. Donc on calcule la date de Pâques avec des tables qui ont été créées il y a très longtemps et qui sont complètement fausses. Et personne ne veut faire le ménage là-dedans. Personne ne veut dire, bon, on arrête tout ça, on passe au nouveau calendrier et on fête Pâques avec les catholiques. Hein.
C'est pas tout à fait ça.
Qu'est-ce que tu veux dire?
Ce que je veux dire, c'est qu'il avait bien calculé, mais qu'ils avaient qu'une. L'année solaire était presque juste.
Ben voilà. Donc elle était fausse.
Quelques heures près.
Ben oui.
Oui, mais ça fait à la fin.
Mais au bout de quelques siècles, c'est complètement faux.
Et le pape Grégoire a rectifié le calendrier.
Voilà.
Solaire.
Voilà. Ils ont enlevé 10 jours. Et ça, l'Église orthodoxe ne veut pas le faire. Ben, pour pas faire comme les catholiques, à l'époque, c'était ça. Et maintenant, c'est encore plus compliqué parce qu'il y a les Russes qui disent on a toujours le vieux calendrier, c'est le vrai calendrier. C'est un problème d'intégrisme, quoi, presque. Hein. Donc, nous, on a un calendrier, on fait ça depuis longtemps. Ce calendrier, puisqu'on le suit, il est orthodoxe, il est saint. même s'il est, complètement faux, quoi. Donc pour eux, ils ne comprennent pas que ça soit faux, mais ils disent, puisqu'on le, nos pères l'ont fait, on le fait, ben, forcément, il est saint, sanctifié par Dieu, et donc on ne veut surtout pas rien changer. Mais ça, c'est le problème tout le temps. Hein, ça, c'est... Donc on a une date de Pâques dans l'Église orthodoxe qui est fausse, sauf quelques années où ça tombe juste. L'erreur est juste. Non. Où on fête avec les catholiques, parce que les catholiques, eux, fêtent correctement.
Parce que même les Russes, en particulier les marins russes, ils utilisent l'horloge astronomique pour faire le point quand ils sont en mer.
Hein. Bien sûr, donc, bien sûr.
On n'est pas tous marins. On a tous la même heure. Hein.
Oui. Ouais. Voilà.
On disait l'histoire de la Pâque juive, c'est faux, c'est un faux problème. Ça.
Voilà, c'est un faux problème. Alors oui, un des arguments, c'est de dire qu'il faut fêter Pâques après la Pâque juive. Non, il n'en a jamais été question de ça, jamais. Jamais.
Je crois qu'il y a un raisonnement scientifique parallèle chez les Juifs, eux aussi ont recalculé la Pâque.
Les Juifs, on ne s'en occupe même pas, on ne parle pas. Parce que, d'après notre compute, comme on dit, calcul, on ne s'occupe absolument pas de la Pâque juive, parce que, de toute façon, pour nous, chrétiens, elle n'a pas lieu d'être, de toute façon. Donc, on prend des phénomènes objectifs.
Oui, mais justement, par les visées astronomiques, on pourrait déterminer avec précision.
Voilà, tout à fait. Mais c'est ce que fait. Mais c'est ce que fait l'Église catholique. Voilà.
Et pour la scène, qu'est-ce que tu réponds à la scène ?
Quoi, la scène ?
La scène. La scène couronne.
Ah, oui, quoi ? Oui.
C'était le repas de la Pâque juive.
Oui, et puis ça tombait comme ça.
Ben oui, parce que... Mais pour nous, c'est pas marqué. Dans l'Évangile, c'est pas marqué. Enfin, si, c'est marqué quand même. Oui. Où veux-tu qu'on te prépare la fête de la Pâque ? Oui. Mais bon, quand on décrit la scène, quelqu'un qui connaît pas le, si tu veux, je veux dire le repas, il reconnaît pas le repas de la Pâque. Enfin, si tu veux, c'est pas un repas. C'est un repas qui institue la scène, mais on voit que c'est plus lié à la fête de Pâques, quoi, hein, à la Pâque juive, parce qu'il dit des mots nouveaux. Il dit prenez ceci est mon corps. Ça n'a plus rien à voir avec la Pâque juive. Mangez ce pain, ceci est mon corps, et buvez, et voilà, c'est une nouvelle alliance, et il crée la nouvelle alliance. Et donc, il institue l'Eucharistie. Mais bon, il meurt, et quand il meurt, le soleil s'assombrit. Donc, voilà, donc, même le soleil et la lune réagissent à la mort de Dieu, quoi. Et non, justement. Alors, c'est justement, on est sûr que c'est pas une éclipse, parce que la lune et le soleil, c'était la pleine lune. Et justement, donc, on peut dire, c'est sûr que c'est pas une éclipse, parce que la Terre est au milieu entre les deux, et donc c'est forcément pas une éclipse, justement. Scientifiquement, on est sûr que c'est pas une éclipse. Voilà, le soleil s'assombrit. Ah, c'est un phénomène extraordinaire, quoi. Oui, je l'ai. Voilà, et donc, tout ça pour dire donc que aussi bien nos Pâques que Noël et que la théophanie, parce que la théophanie, au départ, c'était un seul et même une seule et même fête, tout à fait au début, donc qui avait lieu le 6 janvier. Et à l'époque, le 6 janvier, c'était la date considérée comme bien le solstice d'hiver. Et donc, c'est un moment très particulier depuis le début de l'humanité, ce moment-là. Il est vénéré, donc on peut parler. Donc, pour les hommes, c'était toujours extraordinaire que la nuit augmentait. Et on pensait que, bon, ça y est, on vivra dans les ténèbres complètement. Et puis tout d'un coup, pof, hop, le jour revient. Et donc, à chaque année, c'était... À l'époque, pour eux, c'était un miracle, quoi. C'était parce qu'ils ne comprenaient pas ce qui se passait. Mais bon. Et ce moment-là, dans toutes les civilisations, on essayait de le calculer très précisément. Ils avaient remarqué qu'on pouvait, par des alignements, etc., eh bien, déterminer, ben voilà, ça c'est le jour, hop, où ça bascule. Et là, ce jour-là, il y avait toujours une fête. Et donc... Eh bien, voilà, ben, dès le début du christianisme, ce moment-là a été fêté dans le sens où, justement, le Christ, la lumière, ça a été toujours lié. Dès le départ, Christ et lumière ont été liés. Et Christ, c'est celui qui nous apporte la lumière. Et donc, les jours commencent à grandir, eh bien, voilà. C'est la théophanie, c'est-à-dire, c'est la manifestation de Dieu, parce que pour les chrétiens et pour nous toujours, Dieu se manifeste à l'homme. Hein. Dieu est incompréhensible à l'homme. Dieu, donc tous les théologiens, et depuis le début du christianisme jusqu'à maintenant, et même pour les juifs, Dieu est inconnaissable. On ne peut pas comprendre, l'homme ne peut pas comprendre qui est Dieu. Et donc, par contre, Dieu se manifeste. Dieu se manifeste et Dieu se révèle. Et bien voilà, quand Dieu naît, quand Dieu se fait baptiser par Jean-Baptiste, la Trinité se manifeste. La voix du Père, le Fils et l'Esprit sous forme de colombe. Mais après, ça a été un problème parce qu'on a toujours représenté l'esprit sous forme de colombe. Mais un des conciles a dit il ne faut pas. L'esprit n'est pas une colombe et on ne doit pas représenter l'esprit par une colombe.
Sauf sur
l'icône de la théophanie. Voilà. Mais ça s'arrête là. Après, il y a des icônes qui sont complètement hérétiques. On voit le Père, le Fils et la colombe au milieu. Donc ça, c'est complètement anticanonique. Donc quand vous voyez une icône comme ça, essayez de la mettre de côté, de la brûler si vous pouvez. Ah ben oui. Parce que c'est quelque chose qui n'est absolument pas canonique.
Hein. C'est comme l'icône de la Sainte Famille.
Non, c'est pas du tout pareil. La Sainte Famille, c'est autre chose. C'est autre chose, oui. Parce que sur l'icône de la Nativité, vous avez Saint Joseph, vous avez Marie, Saint Joseph et le bébé. Donc, en quelque sorte, vous avez la Sainte Famille. Mais pas de la même façon. Pas de la même façon. Voilà, Joseph, voilà, n'est pas un jeune homme. Oui, ça c'est sûr. Joseph est un vieillard. Un homme âgé, disons.
Ça parle d'un bon sentiment, mais c'est faux.
C'est un homme âgé, puisqu'il était veuf et qu'il avait eu plusieurs enfants de sa première femme, quoi, on peut dire.
Ceux qu'on appelle les frères du Seigneur.
Voilà. Voilà. Bon. Alors, on va arrêter là. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, Malheureusement, Nectarine avait posé une question sur... Donc, quelqu'un va noter la réponse sur les Katavasya. Donc, elle voulait une explication. Donc, on va juste dire quelques mots là-dessus pour terminer. Donc, on peut dire que l'Irmos débute une ode et la Katavasya clôture l'ode. La Katavasya est un Irmos qui clôture. Alors, au XVIe, XIVe siècle, en Russie comme en Grèce, on chantait à deux chœurs. Et donc, pour la... Alors, les offices duraient longtemps. Et donc, ils arrivaient, je ne sais pas comment ils faisaient, mais ils arrivaient à ce que les deux chœurs se rencontrent au milieu de l'église, entre eux. Et ils chantaient la Katavasya ensemble. À tel point que maintenant, Katavasya en russe, ça veut dire, c'est un peu le désordre. Donc maintenant, bien longtemps, donc, on chante à un seul chœur. Et on chante. Donc la Katavasya, on ne chante pas ensemble. Mais les apostiches, il faut savoir qu'ils chantaient ensemble aussi. Les apostiches.
Parce qu'à Sainte-Sophie, le chœur est au milieu de la nef.
Ah bon ? Il y a un seul chœur ?
Non, il y a un chœur de chaque côté, mais ils se réunissaient au centre.
Et ben voilà, c'est ce que je dis.
Les Grecs le font toujours ou non ?
Je ne sais pas, non, je pense pas. Non, je pense pas. Ils chantent peut-être ensemble, mais... même en Russie, actuellement, s'il y a deux chœurs, ils chantent ensemble, mais ils ne se réunissent pas. Avant, il y avait tout un mouvement, quoi, en plus. Mouvement des chœurs. Hein.
Oui, il y avait un en bas et l'autre.
Non. Sur les côtés, à droite et à gauche, et ils se rencontraient au milieu. Voilà. Donc il y avait des mouvements. Donc effectivement, quand il y a. C'est joli, quoi. Quand c'est bien fait et que. Voilà, on passe son temps à prier, c'est vrai que ça amène de la. Un peu de. De la gaieté. De la variété. La musique de variété.
J'avais une petite question aussi.
Oui.
Tu avais dit donc que le samedi. Oui. L'office du samedi, on ne chante pas le Seigneur est Dieu, mais on chante l'Alléluia.
Non, je dis que si on fait un office au défunt, mais c'est très rare, à la place de Seigneur et Dieu,
donc,
on chante.
Hein? Donc une panachide.
Pas une panachide, mais c'est l'origine de la panachide. Ce sont ces matines que l'on chantait à l'époque, donc, et qui est prévu par l'ordo deux ou trois fois par an. Donc ça, c'est l'origine de la panichide. Voilà. Ce sont ces matines, c'est pour ça que tu as un canon, tu chantes Alléluia, tu as un canon, etc. La panichide, c'est ça. Mais en très raccourci, en 10 minutes. Donc, voilà, 3 heures d'office en 10 minutes. Voilà jusqu'où on peut aller. Bon, je n'ai pas terminé pour la Katavasya. Donc, la Katavasya, c'est la clôture du node. Alors maintenant, pour compliquer la chose, parce que l'ordo doit compliquer pour ne pas faire la même chose tous les jours, hein, eh bien, en semaine, on a un système. Et à partir du fait, avec grande doxologie, on a un autre système. On a deux systèmes. Donc, dans le premier système, on fait la Katavasya uniquement après la troisième, sixième, huitième et neuvième ode. Donc, uniquement quatre Katavasya. Et à ce moment-là, on prend l'Irmos du dernier canon. Voilà. Donc, tu pourras expliquer ça à Nectarine ou...
Je les ai sur mon manuel.
Ah oui, c'est ça.
Ouais.
pas quand on fait, quand on répète la, quand la catavasia, on reprend les rebos. C'est une erreur quand on
non.
Reprend la trompe. Non, on peut non. Le faire aussi.
Bah, ça dépend de ce que dit l'ordo. Hein. Donc ça, je te dis, c'est un système. Je t'ai pas parlé du deuxième. N'importe quoi. Le deuxième système, c'est à partir du moment où le saint est avec grande doxologie. Dès un saint avec grande doxologie, on change de système de catavasia. Et là, la catavasia est chantée à la fin de chaque ode. Donc, les grandes fêtes, c'est forcément ce système de... À la fin de chaque ode, et quel irmos on va prendre ? Eh bien, c'est là où c'est réparti d'après l'ordo. Donc, je vous ai dit, du 1er au 21 septembre, la catavas, c'est l'exaltation de la croix. Donc, en sachant que le 14 est entre le 1er et le 21 septembre. Donc, le jour de l'exaltation de la croix, le jour des grandes fêtes que tu vas célébrer, tu ne vas pas célébrer ni avant ni après, tu vas célébrer le jour de la Sainte Croix. C'est celui que tu connais. Et c'est pour ça que tu me poses la question. Qu'est-ce qu'on va chanter comme catavasia à la fin des aux matines ? On va chanter les irmies de l'exaltation de la croix. Donc le jour de l'exaltation de la croix, tu chantes l'Irmos au début, en tant qu'Irmos, et tu chantes le même Irmos en tant que catavasia. Mais le dimanche d'avant ou le dimanche d'après, s'il est entre le 1er et le 21, ça sera l'Irmos de l'Octoek, catavasia de l'exaltation de la croix. Mais le jour même, ça sera Irmos de l'exaltation, catavasia de l'exaltation. Donc on reprend pour les grandes fêtes. C'est ce que tu as l'habitude de faire.
Voilà, c'est ça.
Donc c'est l'explication. Du 22 septembre au 20 novembre, donc on prend catavasia, c'est ma bouche s'ouvrira. Donc c'est les irmies du canon à la mère de Dieu du ton 4, à trouver dans l'Hermologion. Du 21 novembre au 31 décembre, clôture de la nativité, la catavasia, c'est le canon de la nativité, le christné. Donc dès la fête de l'entrée au temple de la mère de Dieu, donc le jour de l'entrée de la mère, le 21 novembre, eh bien, tu chantes l'Irmos de la fête et la catavasia, c'est déjà le christné. Donc, on commence déjà à préparer. Et les dimanches, ça va être pareil. Du 1er janvier au 14 janvier, la catavasia, c'est le canon de la théophanie. Puisqu'on est... Donc, vous remarquez que la catavasia, pour les jours de fête, c'est... La catavasia de la grande fête qui est dans les parages, quoi. Etc. Hein. Donc, je vais pas. Donc, du 15 janvier jusqu'à la clôture de la Sainte Rencontre, c'est. Eh bien, voilà, la catavasia de la Sainte Rencontre. Etc. Etc. Donc, ça, c'est marqué. Je ne sais pas où, mais c'est marqué dans le petit picon. Et dans le calendrier liturgique, voilà. Donc, regardez. Donc, ça, c'était la question de Nectarine. Voilà, donc, la catavasia, c'est un irmos. Que l'on chante à pour clôturer chaque ode. Voilà, donc demain, on n'aura pas de cours d'ordo. On va préparer l'office du soir. Donc, est-ce que vous avez des questions en général sur l'ordo, est-ce que ça vous a plu ou c'était compliqué ou c'était comment?
C'est compliqué. Hein.
C'est compliqué. Oui, hein. Mais est-ce que ça vous a éclairé quand même?
Oui, plein théologie sont intéressants.
Parce que c'est utile de savoir certaines choses pour comme ça se repérer, se comprendre un petit peu ce qu'on fait, quoi. Mais c'est vrai que c'est extrêmement compliqué, quoi. Si on veut se connaître bien l'ordo, bon, il faut étudier ça à fond. Enfin, je veux dire, pour bien connaître l'ordo, il faut étudier ça correctement et ça prend du temps.
Mais il faut aussi préparer les offices, parce que quand tu prépares les offices, voilà. Tu te poses des questions, tu vas chercher.
Voilà, voilà, voilà.
Mais petit à petit, on demande un petit peu.
Voilà, exactement. Oui. Ceux qui préparent l'office sont obligés de se plonger dedans. Hein.
Voilà, voilà, voilà. Mais c'est clair parce que c'est un cadre déjà de départ, donc ça donne envie et une méthode pour aller continuer à chercher. Parce que quand tu débarques comme ça, tu dis par quoi je commence, qu'est-ce que je fais? Je regarde les bouquins, comment je fais là? Bon. Après, on travaille.
Ouais.
Si, au dernier cours, moi, j'avais rien compris. C'était à toute vitesse.
Et c'est une erreur si, pour les baptîmes, on décide de chanter les roses, de lire le canon et de ne pas faire de catavasia.
Attends, j'ai pas compris.
Pour simplifier, souvent le canon, on chante les roses, on lit le canon et on ne fait pas de catavasia, on passe à la deuxième.
Oui, alors ça, c'est une pratique. Oui, mais ça, c'est une pratique courante. D'accord. Dans les paroisses russes. Hein, au XXe siècle. Donc nous, même le dimanche, on ne faisait la catavasse, on ne fait toujours la catavasse qu'après la 8e et la 9e. Donc ça, c'est... Oui, ça, c'est une pratique courante. Après la catavasse, après la 8e, pourquoi? Parce qu'après, on commence le Magnificat. Donc pendant la 8e ode, le prêtre commence à encenser l'autel, il sort justement pendant la catavasse, il encense l'iconostase, il va se mettre devant l'icône de la Mère de Dieu, et il dit, dans nos chants, magnifiant la Mère de Dieu. Et là, le chœur commence à chanter le Magnificat. Le prêtre encense toute l'église, et puis après, on fait l'Irmos de la 9e ode. Et puis là, on termine le canon par le chant de la catavasse. Et après, il y a une petite ecténie. Et lecture des ex-apostillaires.
Si vous regardez les notes du calendrier liturgique de la
Fraternité,
si vous avez la curiosité de regarder les notes à la fin, tout ce que vient de dire, c'est explicité, avec moins de détails, mais c'est bien explicité. Mm-hmm.
Mm-hmm. Sauf que
vous n'avez jamais le courage de regarder.
Oui,
et que maintenant, beaucoup de choses, je n'ai pas compris, mais enfin, ça m'a familiarisé, j'aurais peut-être plus envie, certainement même plus envie de maintenant regarder. Parce que ça me semblait un gros charabia, comme j'avais dit.
Surtout pour les grandes fêtes, c'est bien détaillé.
C'est bien.
Mmh.